Chers amis, nous en venons maintenant au point de substance de l'ordre du jour, avec la présence aujourd'hui dans cette salle de Pierre Lévy. Nous poursuivons ainsi notre dialogue avec les ambassadeurs de France dans les principaux pays qui impactent l'ordre international. Après avoir entendu Philippe Étienne sur les États-Unis et Bertrand Lortolari sur la Chine, Pierre Lévy va nous parler de la Russie. Lui aussi brillant diplomate de carrière, il a été notre ambassadeur à Moscou pendant près de 5 ans, jusqu'à sa retraite, intervenue en août 2024. Il a consacré à ce long séjour, marqué par les débuts de la guerre en Ukraine, un livre remarquable, Au cœur de la Russie en guerre, que j'ai eu le plaisir de présenter à notre Académie le 24 novembre. Aujourd'hui, président du conseil d'administration de l'IHEDN, Pierre va prolonger devant nous cette réflexion sur la Russie et l'Europe, sur la guerre et comment en sortir, sur l'avenir de notre continent. Mon cher Pierre, nous sommes impatients de t'entendre. Tu as la parole.
Monsieur le Président, cher Jean-David Lévite, Monsieur le Vice-président, cher Raïn Corsia, Monsieur le Secrétaire perpétuel, cher Bernard Stien, Mesdames et Messieurs les académiciennes et académiciens, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré de participer au programme de cette année consacré aux transformations du monde. En introduction à vos travaux, votre président a dressé un tableau finement ciselé du paysage international, des enjeux les plus actuels et des défis auxquels la France et l'Union européenne sont confrontés. Notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a ensuite souligné les responsabilités et les potentialités de notre pays pour favoriser un sursaut européen sans éluder les difficultés. Ce cadre d'analyse et d'action dans lequel je me retrouve pleinement ainsi posé, j'entends apporter ma contribution à vos réflexions à partir de mon expérience à Moscou. C'est une mission de 2020 à 2024 qui aura compté moins de 2 mois de vie normale, à supposer que cette notion de normalité n'ait jamais eu un sens en Russie. Elle a été marquée par le Covid, la montée des tensions jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, la radicalisation du régime, la transformation du pays, sans oublier des épisodes spectaculaires comme le coup de force de Prigojine. Cette épreuve change une vie, du moins une vie de diplomate. Je fais mien le jugement de mon prédécesseur, Robert Coulondre, sur la singulière et terrible époque qu'il a vécue en URSS de 1936 à 1938. Je cite « Vie étrange pour un diplomate, poignante pour un homme, troublante pour un historien. » Cette expérience le place face à l'alternative suprême, paix ou guerre entre les nations. Elle montre bien l'essence de son métier, qui se situe à la fois dans le temps long de l'histoire et le temps immédiat des crises, autant de préoccupations qui sont les vôtres. Vous comprendrez que j'ai vécu avec beaucoup de passion et même de bonheur cette séquence, d'autant plus que j'avais une valeureuse équipe de plus en plus réduite après la vague d'expulsion en mai 2022. Dans cet esprit, j'entre maintenant dans le vif du sujet. Le titre de cette communication, « La Russie et l'Europe, quel avenir pour la Russie ?» est très stimulant, tant il paraît à contre-courant des évolutions actuelles. Une Russie tournée vers l'Asie, coupée pour des générations de l'Europe, son premier partenaire économique, commercial, technologique, son substrat culturel, quoi qu'en pensent certains idéologues russes. Une Russie qui n'attend plus rien des Européens. Je reprends les propos de mes interlocuteurs officiels en 2024, désireuse de les marginaliser dans la recherche d'une solution négociée, déterminée à miner l'Union européenne de l'extérieur et de l'intérieur, à intégrer ses États membres dans sa sphère d'influence ou les dominer par la crainte qu'elle cherche à inspirer. Ce titre renvoie aussi à des facteurs fondamentaux pour comprendre la crise actuelle. Tout d'abord, il est essentiel de garder à l'esprit la nature européenne de l'étincelle qui a mis le feu aux poudres en 2014. C'est le refus de Viktor Yanukovych au sommet du partenariat oriental à Vilnius en novembre 2013, de signer l'accord d'association avec l'Union européenne qu'il avait pourtant paraphé en mars 2012. Le président ukrainien cédera sous la forte pression de Moscou et conclura un accord commercial avec la Russie le 17 décembre. avantageux financièrement et sans conditionnalité de respect des droits de l'homme et de bonne gouvernance. La suite est connue avec le Maïdan, le départ de Yanukovych jusqu'à la prise de la Crimée, la guerre dans le Donbass, puis l'invasion à grande échelle. Ensuite, il s'agit bien plus qu'un conflit autour de l'Ukraine. Nous sommes pris dans une crise gigogne, comme une matrioshka. La guerre contre l'Ukraine représente la plus petite poupée, avec pour objectif démilitariser, dénazifier, déseuropéaniser. La lutte contre les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne, la figurine intermédiaire. Il s'agit de donner un coup d'arrêt à l'expansion de l'OTAN, de découpler la relation transatlantique et d'affaiblir l'Union européenne. Enfin, la plus grande, c'est le combat pour la multipolarité d'une Russie aspirant à se positionner aux côtés des États-Unis et de la Chine parmi les maîtres du monde, chacun devant avoir sa sphère d'influence. Peut-être conviendrait-il d'ajouter une quatrième poupée à cette figurine fabriquée de fureur et de violence. Une éminente personnalité engagée au service de la liberté et de la démocratie me disait à Moscou que cette entreprise guerrière et la construction d'un nouvel ordre mondial ne sont que des prétextes pour Vladimir Poutine, ne sont que des objectifs accessoires par rapport à son ambition suprême, celle de la construction d'un empire intérieur, de l'avènement d'une nouvelle société russe, purifiée par la guerre, de débarrasser cet état civilisation, je reprends l'expression officielle, de ses scories européennes. Il y a là beaucoup à méditer. Les enjeux de cette crise vont bien au-delà du sort de l'Ukraine. Ils concernent l'avenir de l'Union européenne, la sécurité de notre continent et l'ordre international. Tel est mon message essentiel aujourd'hui. C'est l'occasion de réfléchir à toutes ces questions dans notre monde brutal en ce début d'année qui nous donne tant le vertige. Je développerai mon analyse autour de quatre interrogations. Premièrement, quelles sont les sources du conflit ? Deuxièmement, quel bilan de la guerre à sa cinquième année ? Troisièmement, quelles sont les perspectives de sortie de crise ? Quatrièmement, enfin, quels sont les défis pour la France et l'Union européenne et l'avenir européen de la Russie ? Je commence donc par les sources du conflit. Deux forces sont à la genèse de la déflagration. La problématique européenne y est à chaque fois très présente. Il y a un passé mal digéré et un avenir refusé. D'un côté, l'histoire, ou plutôt exactement la politique de l'histoire du pouvoir russe, une entreprise révisionniste qui inspire sa guerre contre l'Ukraine et sa confrontation avec l'Occident. De l'autre, un avenir européen refusé à l'Ukraine ainsi qu'au peuple russe. Je commence par évoquer ce passé qui reste en travers de la gorge des maîtres du Kremlin. Nous connaissons les grands débats identitaires qui agitent l'histoire de la Russie entre les occidentalistes, les slavophiles, les eurasiens, sur les liens entre la Russie et l'Ukraine, le rôle séminal attribué à la Rousse de Kiev, ainsi que l'importance de la Trinité slave formée avec la Biélorussie au sein de l'Union soviétique. Mon propos n'est pas ici de les trancher. Je ne suis pas historien et la vraie question dans mon optique n'est pas là. Quels que soient les points de vue, il y a la réalité implacable et indiscutable d'une agression, la négation de la souveraineté d'un État et la violation de son intégrité territoriale en contradiction avec les principes de base de la société internationale consacrés par les Nations Unies et d'ailleurs reconnus par la Russie à l'indépendance de l'Ukraine, notamment dans le cadre du traité d'amitié et de coopération bilatérale signé le 31 mai 1997. La Russie se cherche, renvoyant en cela à des débats récurrents après la fin du communisme et le chaos des années 90. Elle oppose à son affaiblissement un impérialisme à tout craint dans ce qu'elle considère comme son étranger proche ou au plan international. J'y vois la profondeur du problème identitaire d'une Russie angoissée par son déclassement, dont son déclin démographique est un des signes, 143 millions d'habitants aujourd'hui, 131 selon les évaluations les plus pessimistes en 2045. S'y ajoute la perception d'une hostilité intrinsèque de l'Occident à son existence même, un élément structurant de l'idéologie nationale, soviétique et russe. Cette conviction d'une russophobie multiséculaire, attisant un sentiment chronique d'insécurité, est à la source de la confrontation régulière avec les pays occidentaux, selon un enchaînement élémentaire. Le sentiment de vulnérabilité de la Russie génère son agressivité. à laquelle nous réagissons, réaction qui va, à son tour, attiser sa perception d'être menacée, un exemple à grande échelle de prophétie autoréalisatrice. J'ai observé aussi la même tendance dans la politique intérieure. La transformation du pouvoir en un régime de plus en plus autoritaire est bien antérieure à 2022. Les amendements constitutionnels de l'été 2020 ont gravé dans le marbre le passage à un nouveau système politique. En remettant à zéro le compteur des mandats présidentiels, Vladimir Poutine peut accomplir encore un autre mandat jusqu'en 2036, après s'être représenté en mai 2024. C'est la fin de la fiction de l'alternance politique et l'abandon de façon durable, sinon définitive, d'un système reposant sur l'imitation ou la référence au modèle démocratique européen. Le souci de préserver les apparences a disparu. Cette désinhibition est une évolution majeure. Les exemples sont innombrables, qu'il s'agisse de ce que j'appellerais l'ingénierie électorale, du fonctionnement du système judiciaire, du musellement des médias d'opposition, de l'imposition de l'Internet souverain, de la dissolution d'organisations historiques de la défense des droits humains, comme Mémorial, des prises d'otages étrangers en Russie, l'échange de prisonniers politiques contre des criminels et des espions, comme le 1er août 2024, date de la libération de Vladimir Karamurza, d'Oleg Orlov et d'autres que nous avons tant soutenus, des personnalités impressionnantes de courage. Pour supporter cette charge mentale si lourde et toxique et compenser un quotidien parfois difficile, tout particulièrement pour les populations éloignées du centre de l'Empire, il faut se raccrocher à l'épopée nationale. « Je suis un esclave, mais mon tsar gouverne le monde », écrivait Lermontov. D'où l'importance de communier autour des grandes dates, comme le 9 mai, jour de la victoire de 1945, ou le jour de l'unité du peuple, le 4 novembre, pour commémorer l'expulsion en 1612 des forces d'occupation polono-lituaniennes, de lire et de relire les pages les plus glorieuses du roman national, de manière sélective le plus souvent. Je fréquentais beaucoup les historiens, dont le travail, pour certains, s'apparente tantôt à celui d'un propagandiste, tantôt à celui d'un psychanalyste. L'URSS a apporté au XXe siècle deux grandes contributions, me disait-il, la victoire contre le nazisme et la conquête spatiale. J'en rajoutais une troisième, la chute du mur de Berlin et la fin du bloc de l'Est, sans pratiquement une goutte de sang. Je pensais être un analyste rigoureux, sans malice provocatrice. Mal m'en a pris, vous imaginez nos débats. La victoire de la Grande Guerre patriotique, selon l'appellation officielle, est une réalisation monumentale de l'Union soviétique. C'est une évidence, tout comme l'immense tribut payé par son peuple avec environ 27 millions de morts, civils et militaires. Cette réalité n'est aucunement contestée par nous, contrairement à ce que raconte le pouvoir. Telle est la première des distorsions. Elle s'accompagne d'innombrables erreurs, omissions et mensonges. Je pense notamment à la justification du pacte Ribbentrop-Molotov, au choix funeste de Staline, avant et durant la guerre, à l'origine de tant de pertes, à cette appropriation de la victoire de l'URSS par la Russie, occultant les sacrifices de ses autres peuples, dont les Ukrainiens. En définitive, ce corpus génère le fiel d'un grand ressentiment, comme si l'Occident voulait nier ou usurper la victoire de la Russie. Beaucoup a été écrit sur Poutine, historien en chef, selon le titre d'un petit ouvrage de Nicolas Werth, et lui-même ne cesse de s'exprimer selon une véritable obsession mémorielle. Dans son récit, la victoire de la Russie contre l'Allemagne nazie est au fondement de son identité nationale, lui confère une mission libératrice qui justifie la guerre contre la junte nazie, je cite, à Kiev, et la protection des russophones d'un génocide, en particulier dans le Donbass. Puisant à des sources historiques tsaristes, communistes, dans une même pulsion impérialiste, il s'emploie à démontrer l'unité historique des Russes et des Ukrainiens, titre de son long article publié le 12 juillet 2021. Selon lui, l'Ukraine, en tant qu'entité à part entière, ethnique et étatique, devenait une construction artificielle issue des expérimentations bolcheviques, d'indigénisation et des tentatives polonaises, puis nazies et enfin occidentales, d'affaiblir l'unité de la Russie. En définitive, la guerre actuelle est considérée comme la troisième guerre patriotique après celle de 1812 et de 1941-45. Plus profondément, ces logiques rétrospectives à l'œuvre en Russie et dans certains pays d'Europe centrale et orientale doivent être interprétées, selon moi, comme un signe de grande faiblesse. Il est tellement plus facile pour un dirigeant politique d'embellir le passé que l'avenir. Quant au refus de l'avenir, la deuxième source de confrontation, il concerne le nouveau paysage européen après 1991. Il faut remonter au début des années 90 pour comprendre l'ampleur des problèmes et mesurer la réaction de Moscou. Permettez-moi un bref rappel historique. La fin de la guerre froide, la dislocation du bloc de l'Est, l'éclatement de l'Union soviétique ont provoqué un effet de souffle sur le continent européen. D'un côté, les anciens membres du pacte de Varsovie se sont engagés sur la voie de la double adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne entre 1993 et 2003. De l'autre, le processus a été plus diversifié et heurté. Les 10 anciennes républiques soviétiques se sont retrouvées dans la communauté des États indépendants autour de la Russie. Par la suite, des enceintes ont été créées, toujours avec et autour de la Russie, pour traiter les dimensions économiques et sécuritaires. Ce fut la communauté économique eurasiatique en 2000, puis l'organisation du traité de sécurité collective en 2002, correspondant au volet politico-militaire de la CEI. Il y a eu ensuite, et c'est ça qui est, me semble-t-il, absolument fondamental, le choc entre deux politiques que j'ai vécu de manière opérationnelle dans mes différentes fonctions en lien avec l'Europe. Que s'est-il passé ? À l'Ouest, l'Union européenne a eu l'ambition de resserrer les liens avec ses nouveaux voisins après son grand élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale. Son ambition était de créer un espace commun de prospérité et de stabilité entre elle et la Russie. C'était l'objet du partenariat oriental lancé en 2009. Il concernait l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine. L'Union européenne proposait à chacun d'eux de conclure des accords d'association pour approfondir les relations économiques et politiques. Premier sommet a eu lieu à Prague en mai 2009. À l'Est, la Russie, elle, avait du mal à accepter ces développements qui traduisaient les nouvelles réalités géopolitiques traumatisantes. Elle créera l'Union économique eurasiatique en 2014 avec la Biélorussie et le Kazakhstan, rejoint ensuite par l'Arménie et le Kyrgyzstan, explicitement dirigée contre l'initiative européenne. Les dirigeants à Moscou raisonnaient selon une logique à somme nulle et voulaient faire de ces pays un glacis protecteur contre l'Occident. Ils considéraient et considèrent toujours que nous voulions arracher ces pays appartenant à leur étranger proche, les détacher de leur ancien monde. D'ailleurs, le 1er avril dernier, Vladimir Poutine a mis en garde Nicole Pachinian, le président de l'Arménie, en lui affirmant qu'une adhésion de l'Arménie à l'Union européenne était tout simplement, je cite, « impossible ». Nous pensions au contraire que leur développement et leur stabilité profiteraient à l'Europe tout entière, y compris à la Russie. Au milieu, coincés entre nous et eux, les pays concernés se cherchaient un nouvel avenir. Ils avaient des choix à faire. Chacun le faisait selon ses intérêts et son jeu propre par rapport à Moscou. En tout état de cause, il y a un principe de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, supposé répondre à la nouvelle configuration européenne et régler la réunification allemande. Ce principe est celui de la liberté de choix des alliances. S'agissant de l'Ukraine, cet accord ne portait pas atteinte à ses relations politiques avec la Russie, par exemple concernant le statut de la base de Sébastopol. Il est vrai que ces dispositions commerciales portant sur un accord de libre-échange avec l'Union européenne n'étaient pas compatibles avec l'adhésion simultanée à l'union douanière de l'Union eurasiatique structurée autour de la Russie. Mais il y avait des moyens techniques d'y répondre, pour autant que les volontés politiques ne faisaient pas défaut. Il ne s'agissait d'accorder à Moscou un droit de veto, ni de l'associer aux négociations, comme l'avait demandé le président Poutine, mais d'essayer de prendre en compte ses préoccupations. Les Russes n'ont cessé de se plaindre de ne pas d'avoir été mis devant le fait accompli, ce qui est inexact. Moscou a été tenu au courant à tous les stades de ces développements, et cette attitude me semble un trait caractéristique du pouvoir russe. Quand on lui refuse un privilège, il crie à la discrimination. Durant ma mission à Moscou, je rappelais la réalité à mes interlocuteurs officiels pour contrer leur narratif sur la soi-disant poussée vers l'Est de l'Union européenne et de l'OTAN pour acculer la Russie. Et je peux le dire aujourd'hui, entre nous, la diplomatie française s'employait à tenir l'Ukraine à distance, c'est-à-dire à faire exactement le contraire de ce que prétendent les autorités russes aujourd'hui. Le partenariat oriental avait été créé pour dépasser le choix binaire, être ou ne pas être dans l'Union européenne, et il était fondé sur une ambiguïté. Pour certains, comme la Pologne et les pays baltes, c'était l'antichambre, la salle d'attente de l'adhésion. Pour d'autres, comme la France, les deux questions n'étaient pas liées. Pour nous, il n'y avait aucune automaticité du partenariat à l'adhésion. Toutes les options restaient ouvertes. Et vous savez bien sûr que la question a connu un changement, une accélération majeure au Conseil européen du 23 juin 2022, avec la reconnaissance du statut de candidat à l'Ukraine. Il y avait aussi, vous vous souvenez aussi que la France s'était opposée lors du sommet de l'OTAN à Bucarest en avril 2022 à ce que le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN aille de l'avant. Vladimir Poutine s'en était félicité à l'époque, et d'ailleurs des collègues russes m'ont également remercié quand j'étais à Moscou pour ses positions françaises à l'époque. Et parallèlement, pour développer une approche cohérente et équilibrée, nous nous efforcions, Européens et alliés, de concevoir un nouveau cadre pour nos relations avec la Russie. C'est la conclusion de l'acte fondateur OTAN-Russie en 1997, la création du Conseil OTAN-Russie en 2002. Voilà, tout ça était très important, et j'ajoute aussi qu'il y avait une dimension européenne fondamentale sur laquelle j'avais beaucoup travaillé à l'époque, ce que l'on a appelé le concept des quatre espaces, c'est-à-dire un espace de coopération économique, un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, un espace de coopération dans le domaine de la sécurité extérieure et un espace commun de recherche, d'éducation et culturel. Et l'objectif avait été agréé au premier sommet UE-Russie à Saint-Pétersbourg en mai 2003. C'était un possible point de départ. Je me souviens à l'époque de tous les espoirs que nous pouvions avoir, même si avec la Russie, rien n'était facile. Mais il y avait à l'époque une réelle dynamique. J'évoquais en introduction l'étincelle européenne de cette déflagration. Comme vous l'avez compris, le bras de fer de ces années 2013-2014 n'était qu'un épisode spectaculaire d'une épreuve de force beaucoup plus large, avec en son cœur le peuple ukrainien, dont les aspirations européennes étaient d'un côté niées à jamais par Moscou et de l'autre écartées temporairement par l'Union européenne. Et je garde en mémoire l'extrême tension du sommet de Vilnius, quand Yanukovych a refusé de signer le partenariat oriental, de signer l'accord d'association, parce que nous sentions à l'époque que véritablement nous étions dans un moment de bascule. Vous connaissez la suite sur laquelle je ne reviens pas. Ensuite, Moscou s'est employé à faire de l'Ukraine un contre-exemple pour dissuader d'autres pays, comme la Géorgie, la Moldavie, de s'engager sur cette voie. Vous le voyez bien, la problématique est d'importance majeure. Il s'agit rien de moins que de déterminer le paysage de notre continent. Et c'est fondamentalement une réplique du séisme des années 90-91, sachant que les plaques tectoniques ne se sont pas encore remises en place. Deuxième grande question, quel bilan de la guerre à sa cinquième année? Nous sommes dans la cinquième année de l'invasion. Rien ne s'est passé selon les plans de Moscou. Il y a eu une série de surprises depuis la phase initiale de la guerre qui devait être gagnée de manière expéditive. L'opération Maduro a certainement fait rêver amèrement Vladimir Poutine, qui aurait souhaité faire de même. Dans une guerre éclair, les quatre premières années sont sans doute les plus pénibles. Après, on s'y fait. Il y a eu la résistance ukrainienne, les revers des forces armées, l'ampleur du soutien occidental, les sanctions, le maintien de l'unité européenne. Tout cela n'était sans doute pas anticipé par Moscou. De nos jours, la Russie occupe 20% du territoire ukrainien et une partie des territoires annexés reste contrôlée par les forces armées ukrainiennes, en particulier 19% de Donetsk, 24 à 25% de Kherson et Zaporijja. Ce sont des chiffres cités par Vladimir Poutine. Les pertes sont considérables. Selon Mediazona et BBC, les décès confirmés de militaires du début de la guerre jusqu'au 24 février 2026 s'élèvent à un peu plus de 200 000 tués, en multipliant par 3, avec le chiffre des blessés qui ne peuvent retourner au combat et des disparus. Les pertes totales sont de l'ordre de 600 000 personnes. Cette aventure militaire est aussi un échec stratégique. L'Ukraine est en partie occupée, mais son sentiment national s'est affirmé. Poutine détruit un pays et, ce faisant, il crée une nation, comme le disait Jean David dans sa communication introductive. La perspective européenne lui est ouverte. L'OTAN s'est renforcée et élargie. L'Union européenne a subi un électrochoc face à cette guerre de haute intensité, à ses frontières et à la menace russe. Elle a réagi dans l'unité. Elle est en voie de gagner en maturité stratégique et ses États membres augmentent de manière significative leur effort de défense. Cela étant, il faut se garder de conclusions hâtives. Les forces russes sont actuellement à l'initiative. L'effet d'apprentissage joue, mais il lui manque encore beaucoup d'hommes pour transformer des gains tactiques en une véritable percée stratégique, car les autorités russes ne veulent pas engager une deuxième phase de mobilisation qui serait très impopulaire. J'appelle votre attention, en écoutant les commentaires ici ou là sur les effets d'optique déformants. De temps en temps, on présente la Russie comme victorieuse ou en difficulté. Un expert russe reconnu, par ailleurs ancien colonel du renseignement militaire, disait la même chose que la célèbre formule de Bismarck en 1955. La Russie n'est jamais aussi forte ni aussi faible qu'on le croit. Pour lui, l'armée russe n'est jamais aussi forte qu'elle le prétend et aussi faible qu'elle en a l'air. En parallèle, on voit bien la stratégie russe, la poussée sur le terrain, la pression sur les opinions européennes avec le langage de terreur sur les nouvelles armes, ainsi que les actions hybrides telles qu'on a pu en connaître chez nous, comme par exemple les mains rouges taguées sur les mémorials de la Shoah ou les sabotages de voies ferrées en Pologne. La Russie a aussi porté le fer sur le terrain diplomatique pour restaurer sa puissance dans un monde qu'elle veut multipolaire et désoccidentalisé. On le voit bien comment elle est habile pour ajuster son langage. Pendant très longtemps, le langage, c'était la lutte contre la dénazification. C'est un concept qui parle peu aux pays du Sud. Et elle a orienté maintenant son discours autour du thème de la décolonisation, qui est plus rentable diplomatiquement, qui parle plus à ces pays. Et c'est ainsi que notre pays avait été ciblé lors des troubles en Nouvelle-Calédonie et en Martinique. L'idée, c'est de rallier beaucoup de pays qui ont une stratégie opportuniste et qui veulent contester l'ordre international. La ficelle paraît grosse, mais elle fonctionne. Alors là aussi, il y a une autre profonde distorsion de l'histoire, car les autorités russes escamotent la dimension coloniale de l'histoire russe. Je ne veux pas en parler trop longuement, parce que tout ça est connu depuis les conquêtes de Catherine II après le partage du royaume de Pologne, jusqu'aux guerres au XIXe siècle pour la Transcaucasie, l'Asie centrale, la conquête de la Sibérie. Mais ce colonialisme de voisinage, par comparaison avec la constitution des empires français ou britanniques, est plus facile à faire oublier. Il y a eu le sommet des BRICS à Kazan en octobre 2024, qui a été un succès personnel et diplomatique pour Vladimir Poutine, avec la présence du secrétaire général des Nations Unies qui avait suscité des critiques. Et c'est une nouvelle étape, selon l'approche russe, opposant la majorité mondiale, je cite, et l'Occident minoritaire. Il faut prendre cette initiative très au sérieux, même si les résultats sont en demi-teinte pour les BRICS, notamment concernant l'agenda économique, l'agenda de dédollarisation de l'économie mondiale. Et on a vu d'ailleurs qu'au sommet suivant, à Rio, sous présidence brésilienne, l'agenda anti-occidental de la Russie n'a pas été suivi. Dans ces paysages stratégiques, je voudrais évoquer très brièvement la Chine, puisque Bernard Lortolari a récemment fait une communication à ce sujet, qui est liée à la Russie par une amitié sans limite et qui aide, bien sûr, la Russie dans cette guerre. Mais je crois qu'il faut garder, à mon sens, une différence majeure entre la Russie et la Chine. C'est que la Russie est au cœur de la globalisation, au cœur des chaînes de valeur, des chaînes d'approvisionnement. Elle a des intérêts majeurs sur les marchés européens et américains. Donc elle n'a pas intérêt à renverser complètement la table de la globalisation, avec la vaisselle, alors que la Russie n'est pas dans la globalisation. La Russie exporte des matières premières, exporte des armes, des produits agricoles, et elle a pour objectif ce que j'appellerais la bardakisation du monde, bardak en russe voulant dire pagaille, d'ailleurs certains théoriciens de la politique étrangère russe du club Valdaï évoquent la théorie du chaos pour présenter l'approche russe. Pour élargir la perspective, la Russie accorde à sa guerre contre l'Ukraine la plus grande priorité, ce qui n'est pas sans conséquence sur son positionnement international et la stabilité mondiale. Elle est membre permanent du Conseil de sécurité et en même temps, elle sacrifie, compte tenu de ses besoins liés à la guerre et de l'étroitesse de ses relations avec la Corée du Nord et l'Iran, ses responsabilités de gardienne du traité de non-prolifération. On a bien vu les visites de Poutine en Corée du Nord en 2024, devant lequel défilaient tous les vecteurs prohibés par les résolutions du Conseil de sécurité qui avaient été votées d'ailleurs par la Russie avec nous. Je me souviens aussi que Sergueï Lavrov en septembre 2024 affirmait que la Russie voyait la question de la dénucléarisation de la Corée du Nord comme un sujet clos. Donc tout ça est assez important. Grave. Il y a beaucoup d'autres sujets. On a vu comment Moscou a une stratégie opportuniste au moment de la guerre de Gaza, simplement pour fustiger l'Occident selon le principe de deux poids, deux mesures, alors qu'elle a été pas du tout présente dans la résolution de la crise. Bachar el-Assad a été lâché en Syrie. Même chose durant la guerre des 12 jours contre l'Iran en juin dernier, alors qu'un partenariat stratégique avait été signé en janvier auparavant avec l'Iran. Je prendrai aussi je reviendrai bien sûr sur les tout derniers développements, mais je prendrai aussi un dernier exemple qui m'avait beaucoup frappé parce que c'était au moment de mon arrivée. J'avais eu l'occasion d'en parler avec beaucoup de responsables russes, dont Sergueï Lavrov. Vous vous souvenez qu'au début de l'année 2020, flottait l'idée d'un sommet du P5, des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. À l'époque, j'avais été vraiment très, très surpris par le manque d'imagination de la diplomatie russe pour faire avancer cette idée, le peu de propositions ou des propositions contradictoires concernant son agenda possible. Et sans doute, l'objectif n'était-il que, comme on dit, une photo op, une belle photographie comme en 1945, au bon vieux temps de la victoire de l'Union soviétique. Troisième grande question, quelles sont les perspectives de sortie de crise ? Avant d'exposer les positions de fond de la Russie et sa stratégie, je souhaite préciser les déterminants fondamentaux de la ligne de Moscou. Ces éléments, les seuls points fixes dans un environnement plein d'incertitudes, offrent une grille d'analyse pour comprendre les évolutions possibles. Tout d'abord, le pouvoir résonne à une échelle de temps tout autre que la nôtre. C'est le conflit qui est inscrit dans le temps long de l'histoire, enraciné dans sa vision du monde. Vladimir Poutine est convaincu que l'Occident est faible, ramolli, myope, amnésique, vénal. Il reviendra en Russie comme il est revenu aussi pour y faire des affaires après la guerre de Géorgie, et que tout ça sera vite oublié. J'ai en tête les propos du négociateur russe en mai 2025, quand les délégations russes et ukrainiennes se sont retrouvées pour la première fois à Istanbul à nouveau. Medinsky parlait, au sortir de cette session de négociation qui était infructueuse, de la Grande Guerre du Nord. Vous savez, la Grande Guerre du Nord, c'est très important. C'est la guerre de Pierre Ier contre la Suède, de Charles XII et les Cosaques de Mazepa. Déjà, la lutte pour l'indépendance aussi de l'Ukraine. C'est une guerre qui a duré de 1700 à 1721. Et après la victoire russe de Poltava en 1709, un traité de paix fut signé 12 ans après. Il y a là un signal intéressant. Cette approche est confortée par le fait que la Russie n'est pas au bord de l'effondrement économique à court et moyen terme. Certes, le système est sous tension, sa soutenabilité incertaine, les fragilités structurelles bien identifiées avant la guerre ne sont pas traitées et s'aggravent dans ce pays vieillissant et naviguant à vue. Les dépenses de défense et de sécurité sont très lourdes à supporter sur la durée, sans doute plus de 40% du budget fédéral et 7,2% du PIB. Ce sont vraiment des planchers. Et on a bien vu comment la croissance s'est progressivement épuisée après les très bonnes performances supérieures à 4% en 2023 et 2025, très forte décélération en 2025. Et les chiffres en 2026 étaient, les prévisions étaient en dessous de 1%, notamment du fait des conditions monétaires restrictives et puis de les différences, les problèmes de financement avec le contraste entre le secteur militaro-industriel et le secteur de l'économie, de l'autre économie, l'économie réelle. Et c'est très révélateur que tout récemment, Vladimir Poutine ait réuni les oligarques et les chefs de grandes entreprises pour leur demander de les mettre à contribution pour cette guerre et a évoqué l'alourdissement des impôts. Voilà. Alors, cela étant, le régime n'est pas politiquement menacé. Les élites continuent, du moins en apparence, de faire bloc, d'autant plus que beaucoup d'oligarques proches du pouvoir ou d'hommes d'affaires en tirent profit en rachetant à bas prix des actifs occidentaux. Quant à la population, elle fait pour l'instant le choix de l'adaptation plutôt que de la protestation. La valeur des sondages est sujette à caution et l'opinion publique plus fracturée qu'il n'y paraît. Il existe ainsi des partisans de Vladimir Poutine défavorables à la guerre et inversement. À mon sens, selon une estimation approximative, on peut considérer que la part des anti-guerres et des va-t-en-guerre est équivalente, de l'ordre de 15%, et que le reste de la population est dans une sorte d'apathie protectrice. Il faut y voir l'effet drapeau stimulé par la propagande. La Russie est attaquée par l'OTAN. La crainte d'une répression impitoyable de toute opinion dissidente également. Cette attitude est liée au respect du contrat social de base entre un pouvoir garant de la stabilité et un peuple qui ne se mêle pas de politique. Jusqu'où cet équilibre tiendra-t-il en cas de nouvelle mobilisation ou en cas d'aggravation des difficultés économiques? Il faut aussi reconnaître qu'une grande partie de la population peut désormais considérer qu'elle a intérêt à la poursuite de la guerre. Et en particulier, il y a ce que un économiste russe, Vladislav Inozemtsev, a appelé l'économie de la mort. Je recommande l'excellente note qui a été publiée par l'IFRI en février dernier à ce sujet. Un contractuel dans l'armée qui meurt à la guerre rapporte plus d'argent à sa famille que ce qu'un Russe moyen gagnerait pendant le restant de sa vie. Ce système dans lequel la mort devient l'utilisation la plus rentable d'une vie humaine est à la fois un moyen de recrutement, de stimulation de l'économie et de contrôle politique. La hausse rapide des salaires et des prestations sociales a fait croire le revenu réel disponible des ménages à un rythme très élevé, le plus élevé depuis 15 ans. Vous le voyez bien, le sevrage sera difficile une fois la guerre terminée. Enfin, les autorités veillent à tenir Moscou et Saint-Pétersbourg à l'écart de l'opération militaire spéciale. C'est un escamotage qui devient de plus en plus difficile. C'est ainsi que les évolutions les plus récentes ont été marquées par un verrouillage de l'espace numérique. Blocage d'Internet, de WhatsApp, de Telegram, avec une application alternative Max, mais qui est branchée sur les services pour avoir accès aux services officiels. L'usage de VPN étant réprimé pénalement. Je crois que ce sont des évolutions qui ont un impact très concret sur la vie quotidienne des populations, qui sont très évoluées digitalement dans les grandes villes. Et à mon sens, elles sont potentiellement de nature à influer sur l'attitude face à la guerre, augmentant la lassitude qui monte. Certains y voient avec inquiétude, peut-être, les signes avant-coureurs d'une nouvelle phase de mobilisation. Deuxième paramètre, la Russie est convaincue de sa supériorité, simplement par le fait qu'une puissance nucléaire ne peut pas perdre. Voilà, donc c'est aussi un point qui est martelé dans cette logique de sanctuarisation agressive, mais je dirais que par-delà les déclarations menaçantes, on n'a pas détecté en pratique de changement dans le comportement opérationnel des forces nucléaires. Le troisième paramètre concerne ce que j'appelle la symétrie décisionnelle entre les différents protagonistes. C'est un point qui, là aussi, me semble très important. En clair, cela veut dire que Vladimir Poutine, à tout moment, peut arrêter la guerre, quand il le veut, en déclarant la victoire, en expliquant que l'OTAN a été repoussée, que la continuité territoriale est assurée avec la Crimée. Il ne sera pas contredit par la Douma, il ne sera pas contredit par la presse, et la population sera soulagée. Les gens ne descendront pas dans la rue pour dire « il faut aller jusqu'à Kiev ». Cela étant, quels que soient ses talents de propagande, il ne faut pas que la situation sur le terrain le contredise trop, même la réalité alternative à ses limites, on le voit d'ailleurs sur un autre terrain de guerre actuellement. Côté ukrainien, le président Zelensky, lui, est dans une situation radicalement différente. L'Ukraine est sans doute loin d'être une démocratie parfaite, mais en tous les cas, il y a une Rada, il y a une opinion publique, il ne peut pas faire des concessions sans être mis en minorité. L'existence de son pays est en jeu. Quant aux Occidentaux, à nos pays, nous avons les élections, nous avons les débats au Parlement concernant le budget, l'effort de défense, le débat entre l'arsenal contre le social. Enfin, tout ça est parfaitement, parfaitement clair. Et puis, Bruxelles est une maison de verre, en particulier du fait du jeu déloyal de la Hongrie avec Moscou. Mais de bonnes nouvelles sont venues hier de Budapest. J'en viens maintenant à la stratégie de négociation après avoir décrit les grands paramètres, les invariants de la position russe. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'équation de Vladimir Poutine consiste à garder le cap sans perdre le président américain. Moscou n'a cessé d'afficher une ouverture de façade en faveur du dialogue. Et on le voit bien, il y a eu toute une série de paroles très flatteuses selon lesquelles Donald Trump est un partenaire confortable, un partenaire qui nous comprend. Mais il n'y a pas, à ce stade, la moindre disponibilité réelle à des négociations. Et de manière récurrente, comme on me le disait à Moscou, les objectifs initiaux de l'opération militaire spéciale restent inchangés et seront atteints. Tel est le discours russe, sans plus d'explicitation. Le président Poutine n'a pas dévié de la ligne qu'il avait exposée dans un discours de référence au ministère des Affaires étrangères en juin 2024. J'insisterai sur deux points. Premièrement, le décalage séquentiel entre les Russes et nous. Pour l'Ukraine, les Européens et sans doute les Américains, je ne sais plus trop tant la position a changé, il y a d'abord le cessez-le-feu et ensuite la discussion d'un accord global pour une négociation de paix. Pour Moscou, c'est exactement l'inverse. Le cessez-le-feu n'intervient qu'après un accord sur un cadre général et il n'y a pas de cessez-le-feu sans préconditions. Il y a toute une série de préconditions qui sont bien évidemment très dures à respecter, comme un retrait des troupes ukrainiennes des régions annexées, c'est-à-dire en fait la Russie demande qu'on lui rende des territoires qu'elle n'a jamais conquis, une notification officielle de l'Ukraine de renoncer à adhérer à l'OTAN, des négociations qui ne se tiendraient pas avec le président Zelensky dont la légitimité n'est pas reconnue. Et donc il faudrait ensuite toute une série d'accords pour inscrire dans le marbre des garanties contraignantes pour la Russie, comme le statut neutre, non aligné et non nucléaire de l'Ukraine, sa démilitarisation, sa dénazification et bien sûr la levée de toutes les sanctions. Il faut ensuite, et c'est le deuxième point de cette grille d'analyse, distinguer les trois blocs de négociation dans l'approche russe. D'abord les territoires, ce que Sergueï Lavrov appelle les nouvelles réalités territoriales. Deuxièmement, les aspects politiques sous le terme de dénazification, c'est-à-dire un changement de pouvoir à Kiev. Et puis troisièmement, la sécurité avec le paramètre OTAN, qui est en tête des priorités. La Russie ne veut pas de l'Ukraine dans l'OTAN, mais elle ne veut pas dans l'OTAN, dans l'Ukraine, d'où son opposition à la coalition des volontaires qui est en cours de montage. Sous ce chapitre, et là aussi c'est un point très important compte tenu de l'expression qui revient régulièrement dans le discours russe, le traitement des causes profondes à la racine du conflit. Je voulais vous rappeler qu'en décembre 2021, la Russie a mis sur la table deux projets de traité, l'un avec les États-Unis, l'autre avec l'OTAN, qui revenait, sans entrer dans le détail, à remettre en cause l'élargissement de 1997 et faire revenir les positions de l'OTAN à la situation antérieure. C'était bien évidemment, comme on dirait en très mauvais langage diplomatique, des non-starters. La Russie savait que ces points étaient inacceptables pour nous. Mais en tous les cas, nous avons fait le choix de les prendre au mot pour éviter à nouveau de nourrir leur discours sur le fait que la Russie n'est pas écoutée. Il y a eu une réunion très tendue, très longue, très grave du Conseil OTAN-Russie le 12 janvier 2022, et c'était en quelque sorte la dernière sortie diplomatique possible sur l'autoroute qui menait à la guerre. Et vous voyez bien donc à travers cette rapide présentation la complexité des nœuds à défaire. Et vraisemblablement, la Russie privilégiera une absence de règlement clair du conflit qui lui permettra de garder la main sur la destinée de l'Ukraine, gelant le conflit en Europe et puis également maintenant cette vision d'un Occident qui la menace pour assurer la cohésion interne et la solidité du régime. J'ai une conviction profonde, c'est que Vladimir Poutine est allé trop loin pour ne pas aller plus loin. Alors, il existe différents scénarios d'évolution de la crise qui dépendent très largement, il faut le reconnaître, de l'attitude des États-Unis. Tout porte à l'inquiétude. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a eu de nombreux coups de cœur à l'égard de Vladimir Poutine et des coups de sang plus rares. Nous avons tous en tête certains épisodes spectaculaires et douloureux. Et plus troublant encore, me semble-t-il, c'est le contraste qu'il peut exister entre un président américain impatient d'empocher un accord à la va-vite pour faire cesser les combats et son homologue russe, fort de sa patience stratégique, qui, lui, veut un autre monde. Je pourrais aussi évoquer le contraste professionnel entre les négociateurs, connaissant les interlocuteurs de Steve Witkoff au Kremlin. En l'absence de résultats, notamment au sommet d'Anchorage, contrairement au récit russe, Moscou a déjà beaucoup empoché sans faire la moindre concession. Le tête-à-tête avec les États-Unis, le refus de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, la manière dont Washington traite ses alliés, le vote commun à l'ONU à l'anniversaire de la guerre. Et on voit bien que tout ça suscite côté russe, et ça c'est très intéressant me semble-t-il, deux types de réactions. Vous avez d'un côté les cercles de pensée qui voient au-delà de la personnalité de Donald Trump le grand retour des politiques de puissance et du conservatisme. Les cercles dirigeants des structures de force, par contre, n'adhèrent pas à cette vision très intellectuelle et restent imprégnés par une profonde défiance tant vis-à-vis des États-Unis que de la Chine. Il y a aussi, parce que quand on regarde les choses depuis le début, depuis 2022, il y a eu aussi des bonnes surprises pour Vladimir Poutine et bien évidemment, la guerre du Golfe en est une. Nombre de ses conséquences, en première analyse, sont favorables à la Russie. Une action de force au mépris du droit international après le Venezuela qui légitime son approche. Un nouveau front qui détourne l'attention de l'Ukraine. Des livraisons d'armes à l'Ukraine qui pourraient être limitées par les besoins américains. Les tensions aussi entre les États-Unis et ses alliés européens. L'image de fiabilité des États-Unis auprès de ses alliés aussi, qui en sera très profondément affectée. Il y a bien évidemment le facteur énergétique qui conduit à penser que la Russie est la grande gagnante. Il y a les évolutions sur le marché du pétrole et du gaz qui lui offre des gains économiques potentiellement importants sur le papier. Je ne cite pas, on pourra y revenir dans les questions si vous le souhaitez, mais je ne cite pas tous les chiffres qui circulent parce que je pense que ça n'a pas grand sens comptablement. Je pense par contre que cette vision est beaucoup moins positive qu'on ne le croit, dans la mesure où les capacités de production russes sont très contraintes compte tenu des sanctions qui peuvent exister. On assistait déjà à une baisse de la production l'année précédente. Et puis également, les voies d'approvisionnement sont mises en cause. Nord Stream a été endommagé. On ne peut pas exporter le pétrole par Yamal Europe, qui doit passer par la Pologne. Il y a également la voie de la Baltique, par laquelle 40% de son pétrole est exporté, qui a été frappée encore récemment par les Ukrainiens. Je pense que le paysage n'est pas aussi, le bilan n'est pas aussi positif pour Moscou que l'on veut bien le dire, même s'il faut être très prudent, car nul ne sait comment la crise va évoluer, ne serait-ce qu'en regardant les toutes dernières évolutions de la journée dans le Golfe. Voilà. Au titre des conséquences négatives, bien sûr, le fait que la Russie avait des intérêts économiques importants, en particulier avec la deuxième tranche de la centrale nucléaire de Bouchir, et que les pays du Golfe, en particulier les Émirats, étaient un point important pour contourner les sanctions et un hub d'approvisionnement. En tout état de cause, ces développements incertains lui procure un regain de confiance alors qu'elle était à la peine, encore plus si cette aventure guerrière venait à mal tourner pour Washington. J'en viens maintenant à la quatrième et dernière question. Quels sont les défis pour la France et l'Union européenne et l'avenir européen de la Russie ? Les enjeux sont clairs. Derrière le Donbass, il y a l'avenir européen et l'avenir de notre Union européenne. Et nous jouons très gros dans cette affaire. C'est notre capacité, la capacité européenne à gérer la crise, à incarner nos valeurs démocratiques, à assumer notre sécurité en pleine souveraineté, à préserver notre unité sur un sujet qui a toujours été le plus diviseur entre les Européens. L'environnement pour l'Europe est très, très difficile, parce qu'elle se heurte à une double hostilité. Il y a l'hostilité de la Russie qui est bien connue, qui est ancienne, même si dans l'échelle des ennemis, l'Union européenne apparaît sous l'OTAN. L'Union européenne est toujours très méprisée ou ignorée par la Russie, mais elle souffre aux yeux de Moscou d'une double tare. Elle est d'abord dominée par les États russophobes. Un vice-ministre me disait « l'Europe est en voie de polonisation ». C'est une expression intéressante. Et puis deuxièmement, elle est vassalisée par les États-Unis. C'est très intéressant aussi, et je pourrais répondre à vos questions sur ce point-là qui nous concerne directement, l'attitude face à l'élargissement, à la perspective européenne pour l'Ukraine. Parce que, vous le voyez bien dans tous les documents qui ont circulé, l'OTAN, c'est absolument non, niet, alors qu'il laisse passer cette adhésion de l'Union européenne, de l'Ukraine à l'Union européenne. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il n'y croit pas, peut-être aussi parce qu'il considère qu'il s'agira d'un cadeau empoisonné bienvenu qui fragilisera durablement l'unité de l'Union européenne, voire la fera imploser. Mais il faut reconnaître que récemment, le discours vis-à-vis de l'Europe s'est durci dans la mesure où l'Europe s'est investie beaucoup plus en matière de défense et de sécurité. Il y a aussi, bien sûr, l'autre hostilité qui est nouvelle dans sa brutalité. Nous avons tous en tête le discours de Gene Evans à Munich il y a un an, la publication de la National Security Strategy, et puis d'autres pulsions inquiétantes. Et là aussi, le Kremlin a toutes les raisons de se réjouir de voir l'Union européenne prise entre ces deux mâchoires. Alors, comment, dans une configuration aussi compliquée, aussi critique pour nous, comment faire en sorte que l'Union européenne, avec la France en pointe, prenne une part active, conforme à ses intérêts, dans le règlement du conflit, et ne se retrouve pas prise dans un grand arrangement entre Moscou et Washington ? Comment faire en sorte, à un horizon plus lointain, que l'avenir de nos relations avec la Russie ne soit pas décidé ailleurs, sans nous ou contre nous? Telles sont les grandes questions. Alors je mentionnerai quelques grandes lignes d'action, toujours, je le répète, à titre personnel, bien évidemment. Premièrement, notre force viendra de notre capacité d'entraînement et de la confiance que nous saurons générer chez nos partenaires européens et chez nos alliés. Je me souviens que l'agenda de confiance et de sécurité en 2019-2020 avait suscité beaucoup de défiance de certains de nos partenaires européens, à tort souvent, parce que vouloir parler à la Russie n'est pas un signe de faiblesse, et on le voit bien aujourd'hui. Deuxièmement, il faut instaurer bien sûr un rapport de force avec Moscou. C'est un des intérêts de la coalition des volontaires, qui est une vraie prise de risque politique et militaire assumée de la part des Européens, qui envoie un triple message. Un message à l'Ukraine pour lui exprimer notre solidarité. Deuxièmement, un message à la Russie pour être parfaitement clair sur notre désir d'une paix durable avec des garanties de sécurité, et que nous résistons, nous faisons face à ces menaces, et puis aux États-Unis pour leur démontrer la capacité des Européens à prendre leurs responsabilités. Cette ligne d'action exige un renforcement des sanctions. Je m'inscris en faux contre ceux qui disent que les sanctions ne fonctionnent pas. Bien sûr, elles n'ont pas influé sur le changement de cap de Vladimir Poutine, mais elles mordent, elles font mal, elles retardent beaucoup d'évolutions en Russie. Et puis, il faut que les Européens s'investissent dans le Sud global. Je déteste cette expression, mais on voit bien de quoi il s'agit. Pour déconstruire le discours de Moscou sur le nouvel ordre du monde, dénoncer le concept de multipolarité à la russe, c'est-à-dire sans multilatéralisme, ce n'est que l'organisation de sphères d'influence, mettre en lumière la vacuité de sa politique d'aide au développement et ses positions très conservatrices en matière de réforme de la gouvernance internationale. Ensuite, une discussion stratégique ne peut plus être repoussée entre les Européens, parce que le souci de préserver l'unité et les sanctions ne peuvent pas faire office de stratégie. Il y a beaucoup de questions que volontairement nous avons mises de côté, car nous savions que les risques étaient trop grands pour la cohésion européenne. Mais que signifie, quels sont nos objectifs? Que signifient les notions de victoire et de défaite pour chaque protagoniste? Il y a des paramètres européens sans doute à mettre sur la table, avec deux principes de base, la sécurité pour l'Ukraine et la préservation de sa souveraineté. Mais il y a sans doute des formules qui permettent de tenir compte des réalités telles qu'elles existent en préservant l'avenir. Mais là aussi, c'est aux Ukrainiens de décider avec notre soutien et nos conseils. Les défis sécuritaires sont considérables, vous le savez, je passerai très rapidement, mais il y a ces menaces hybrides, ces bras zéros sur lesquels la Russie est prête à jeter de l'huile pour polariser notre communauté nationale, affaiblir notre capacité collective d'action, surtout en période électorale. Enfin, il faut que cet engagement se fasse dans l'unité transatlantique. Je ne comprends pas comment les États-Unis ne comprennent pas qu'une victoire de la Russie serait une défaite des États-Unis. La Chine regarde ce qui se passe et en tirera des conclusions. Et une défaite aussi personnelle pour Donald Trump. Alors, devant tant d'incertitudes, il peut paraître prématuré de s'interroger sur l'avenir européen de la Russie. Mais à un moment, la guerre s'arrêtera, même si la confrontation, elle, se poursuivra, j'en suis convaincu. Et il y aura un débat entre Européens. Il y aura un débat entre ceux qui considéreront qu'il faut se retrancher derrière un mur de l'OTAN et de l'Union européenne, ne plus rien avoir à faire avec la Russie, d'ailleurs, avec laquelle on achetait peu de biens industriels et de consommation, pas de biens industriels et de consommation. Et nous serons désintoxiqués au gaz et au pétrole russe, normalement. En simplifiant, on ne veut plus les voir. Voilà. Et vous en aurez d'autres qui considéreront qu'il faut essayer, rebâtir une sorte de modus vivendi selon une approche cohérente et lucide face à Moscou, avec des enjeux comme la maîtrise des armements, la déconfliction qui seront à traiter en priorité. On parle beaucoup de l'architecture de sécurité européenne. Je n'irai pas jusqu'à là. Mais en tous les cas, il faut réfléchir à court et à moyen terme, d'abord à notre posture de dissuasion et de défense, pour faire en sorte que la Russie soit dissuadée de recommencer. Et puis, chercher sans doute à reconstruire quelque chose. Je dis bien quelque chose, encore une fois, parce que je ne suis pas capable, à ce stade, d'être plus précis avec Moscou. Reconstruire n'est pas une fin en soi pour recréer une illusion d'ordre, mais il faut éviter que s'installe durablement le mur du silence, de l'incompréhension, avec des générations qui ne se connaîtront plus. Et ça, je crois que c'est très important. C'est mon analyse, c'est ma position, et j'espère que la France sera dans ce camp-là. Où sera l'Ukraine dans cet ensemble. Mon collègue Gaël Vessière sera parmi vous le mois prochain et beaucoup plus qualifié pour en parler. Mais je crois que l'Union européenne a une clé. L'Ukraine est un pays jumeau de la Russie dans ses caractéristiques économiques et sociales. Et c'est toute la clé de l'élargissement. De l'autre côté de la frontière, où qu'elle soit, les Russes verront les changements qui se dérouleront, de la même manière que les Polonais ont vu ce qui se passait en Allemagne et en tireront des enseignements dans leur pays. Pour leur pays, si j'ose dire, le ver sera dans le fruit. Une Ukraine fonctionnelle, dotée d'une économie de marché aux traits démocratiques, serait une menace pour le régime. Et à mon sens, Moscou a plus peur de la capacité transformatrice de l'Union européenne, comme l'a montré l'épisode de l'accord d'association, que de l'OTAN. Il s'agit là, j'en suis pleinement conscient, d'une vision de long terme, certains diront éthérée. Voilà. Et donc maintenant, si je regarde devant nous, la Russie se prépare sans doute à faire l'expérience d'un isolement qu'elle voudra splendide. L'imagination des idéologues et propagandistes est infinie pour inventer un nouveau récit. Je pense en particulier à Vladimir Surkov qui, dès 2018, après l'annexion de la Crimée, disait « Cet événement, c'est l'achèvement du voyage épique de la Russie vers l'Ouest, le terme de ses nombreuses tentatives infructueuses d'être incorporée dans la civilisation occidentale, de s'apparenter à la bonne famille des peuples européens. Il poursuit selon son style si singulier. Notre appartenance culturelle et géopolitique fait penser à l'identité erratique d'une personne née d'un mariage mixte. Il est de la famille, jamais un des nôtres. Il comprend tout le monde, mais n'est compris de personne. Un sans-mêlé, un métis, un peu bizarre. La Russie, c'est un pays de sans-mêlé occidentalo-oriental, avec sa structure étatique à deux têtes, sa mentalité hybride, son territoire intercontinental, son histoire bipolaire. Elle est, comme tous les sans-mêlés, charismatique, talentueuse, belle et solitaire. Telle est la voie choisie. La Russie n'en sera pas pour autant moins dangereuse. Voilà. Les racines, pour terminer, je rajouterais simplement que j'y vois là une pathologie post-impériale, avec des racines très profondes à extirper. Les anciens empires en souffrent beaucoup, le Royaume-Uni, la Turquie, la France aussi. Seul un travail rigoureux et authentique de relecture de toutes les pages lumineuses et sombres de l'histoire, ce que peut faire un pays démocratique, est capable d'en sortir. C'est la distinction que fait Bruno Tertrais entre les empires guéris et les empires blessés. L'historien Timothy Snyder, auteur des Terres de sang, écrit aussi que pour devenir meilleur, un pays doit perdre sa dernière guerre coloniale. Un journaliste russe de premier plan me disait à Moscou que la Russie mène en Ukraine sa guerre d'Algérie. Je suis convaincu que la solution ne pourra venir in fine que des Russes eux-mêmes. Je terminerai par deux réflexions. Premièrement, je reviens d'un monde où la réalité est une option parmi d'autres. J'ai appris à me méfier de notre rationalité appliquée à d'autres, en particulier au régime russe, surtout quand il a un logiciel stratégique si différent du nôtre. des politiques de puissance inspirées par le messianisme, la croisade, le prisme civilisationnel ou religieux sont sans doute ce qui est le plus irréductible à la négociation et au travail diplomatique. Ce sont les plus dangereuses. Le démiurge, le prophète, le missionnaire ne fait jamais une bonne politique étrangère. La situation actuelle nous en offre un exemple. L'Union européenne et les Européens ont beaucoup de mal à se situer dans la configuration actuelle. Leur rapport à la puissance a été bouleversé par la guerre de la Russie, ainsi que par les politiques des États-Unis et de la Chine. Doivent-ils se borner à réaffirmer le respect de leurs valeurs et du droit, ou risquent d'être incapables de peser dans ce monde brutal, ou, au contraire, rivaliser à leur tour dans ce jeu de la force, à supposer qu'ils en aient les moyens, quitte à renier une part de leur identité. Ce choix est évidemment simplificateur, et les deux approches ne sont pas exclusives. Mais leur environnement stratégique oblige les Européens à repenser en profondeur leur rapport à la puissance, à renforcer leur capacité militaire, à développer une culture stratégique commune et arrêter d'être une puissance qui s'ignore. Ni se lamenter, ni commenter, mais agir, comme le disait le président de la République lors de la dernière conférence des ambassadrices et des ambassadeurs. Dernière remarque qui m'est chère, il faut lire et relire un article de Pierre Asner, « Le siècle de la puissance relative » en octobre 2007. Les analyses d'une grande puissance visionnaire de cet élève de Raymond Aron, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler, décrivent un 21e siècle confus où l'hégémonie occidentale bute sur des obstacles inédits, des concurrents qui ne sont ni amis ni ennemis, des victoires militaires qui sont des échecs politiques, des résistances culturelles aux valeurs de la démocratie. Nous y sommes. Dans cette configuration où ne règne ni le concert multipolaire des puissances sur le modèle du Conseil européen du XIXe siècle, ni les institutions multilatérales, l'affirmation de la souveraineté européenne est plus que jamais l'assurance pour notre avenir. Je vous remercie de votre attention.
Merci, cher Pierre. Mon mot n'est peut-être pas diplomatique, mais c'était formidable.